Oui, alors, que faire quand on vous demande cela? Je crois que ça a été, en tout cas pour moi, très inutile. Et c'est un regard, finalement. On n'a aucune prétention, comme moi, d'enseigner. C'est un regard que l'on porte quand même. Je rends le pain à la demande de Monseigneur depuis presque, cela fait 39 ans. Et c'est sûr que peut-être que les jeunes qui sont là vont se dire, mais il y a des choses qui disent que nous savons, et puis il y a des choses qui disent que nous ne savons pas, pour les jeunes ou pour les moins jeunes. Excusez-moi et interrompez-moi s'il y a des choses qui ne sont pas compréhensibles. C'est un sujet bien sûr extrêmement profond, très affectif, touche au profond de nos affections et le sens dans lequel on le traitera peut-être pas cette fois-ci, mais la fois suivante. Comment partager la scène, je sais que c'est un sujet très sensible, c'est un sujet dans lequel il faut entrer aussi avec ce que le Seigneur nous a dit, ce que Dieu nous a dit dans l'Écriture. Voilà. Donc, il y a deux parties. La première partie, nous la verrons aujourd'hui. Donc, qui touche au fondement ce que nous trouvons dans l'Écriture à l'égard de la scène. Excusez-moi, c'est la seconde partie, là, qui est présentée. Moi, je m'en souviens. Voilà. C'est la première partie ici sur les fondements, l'instruction, l'enseignement reçu par Paul. Deux exemples que nous avons dans le livre des Actes et ce que je pense être très complémentaire pour le sujet qui nous occupe, partager la scène du Seigneur, ce que l'Écriture dit, de recevoir, veiller, recommander l'état moral et l'état doctrinal. La suite donc du roulant. Il y aura peut-être quelques changements parce qu'il faut être là aussi voir si on ferme le sujet. Donc dans ces deux parties, un peu résumé appliqué de ce que nous pouvons vivre actuellement de ces enseignements bibliques, et puis alors après le sujet la participation occasionnelle avec quelques remarques historiques, le rappel de l'enseignement biblique sur la participation, les termes de l'apprentissage que nous avons tous touché, que vous avez, nos appréhensions que nous avons tous aussi, et un cadre donc, dans lequel nous devons réfléchir, en tout cas c'est ma proposition, pour que nous puissions être à l'aise vis-à-vis de ce partage de la scène. Alors, voilà. Les textes, je les ai pris dans l'ordre chronologique qui nous sont donnés donc, dans le Nouveau Testament. Et vous avez donc, j'ai souligné, les couleurs ne sont pas très bonnes là, quand on projette. Donc, il y a des petits numéros sur lesquels j'attirerai l'attention. Ce que je veux dire aussi, c'est que à l'issue donc, de la seconde réunion, je donnerai un petit quelques notes, donc écrites pour ceux qui le veulent. Je dirai d'abord donc ce que nous avons donc dans Matthieu, vous avez un titre sur les temps écrits. Alors, je vous le dis bien aussi, les versets sont dans, dans le Nouveau Testament de la Bonne Semence, qui est clair, quelques points, qui ne sont bien sûr absolument pas changés, et en fait, ne seront projetés sur l'écran que des versets. Il n'y aura pas de notes ou de points expliqués. Et comme ils mangeaient, Jésus prit un pain, et ayant béni, le rompit et le donna aux disciples et dit : prenez, mangez, ceci est mon corps. Puis ayant pris la coupe, ayant rendu grâce, il la leur donna en disant : buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour un grand nombre en rémission de péché. Mais je vous dis que désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'à ce jour où avec vous je le boirai nouveau dans le royaume de mon Père. Ayant chanté le hymne, ils sortirent et allèrent à la montagne des Oliviers. Nous savons bien que ce texte est précédé dans cet évangile par la Pâque que le Seigneur a célébrée avec ses disciples. Ensuite, donc, le Seigneur nous parle du désir de son cœur à Notre-Dame. Le premier point que j'aimerais donner, donc, c'est ce qui est souligné par le point 1, un pain, et un petit peu plus loin, sur la troisième ligne, la coupe. Donc ce sont deux symboles, on le verra ensuite, qu'est-ce qui signifie, que le Seigneur prend de la vie de tous les jours. Et en particulier de ce que l'on mange. Et on le verra tout au long, la scène est un repas. Un repas spirituel, certes, mais c'est aussi un repas frugal. Ce n'est pas à négliger, dans ce sens que, par exemple, dans Jean 6, le Seigneur se présente comme le pain de vie qui nous amène et nous demande de nous nourrir du pain de vie. Mais ici, il dit aussi d'ailleurs, je reviens sur ce même chapitre 6 de l'Évangile selon Jean, il nous dit aussi que nous devons manger la chair, sa chair, boire son sang. Ce n'est pas la scène qui est intitulée, bien sûr, dans ce que je viens de dire. La scène est intitulée ici. Elle est intitulée la veille, donc, du jour où le Seigneur a été livré. Mais je reviens sur le côté de la nourriture, du côté de ce que nous prenons. C'est approprié ce que le Seigneur a fait pour nous. Et on le verra tout le long. C'est une pensée récurrente, donc, qui est entièrement liée au fait que nous prenons la scène. Donc, c'est un souvenir, mais c'est s'approprier et le fait qu'il présente ce qu'il va faire dans les heures qui vont suivre, donner sa vie sous la forme du pain et de la coupe est tout à fait essentiel. Il y a donc quelque chose qui doit aller au plus profond de nous-mêmes et nourrir aussi notre propre vie. Le second point, donc, qui est souligné par ce petit chiffre 2, c'est ayant béni, un petit peu plus loin, donc ça c'est pour le pain et pour la coupe, un petit peu plus loin, et ayant rendu. C'est frappant de voir que le Seigneur, instituant la scène pour ses disciples, prend le soin, comme dans un repas, de bénir et de rendre grâce. Il ne le fait pas pour ce qu'il va prendre lui. Parce qu'on le verra, le Seigneur n'a pas pris, il n'a pas participé à ce repas, il a institué. Mais il se place sous le regard de Dieu. Il bénit Dieu, il place toute chose dans la lumière de Dieu et sous la bénédiction divine. Et lorsque nous allons dans 1 Corinthiens 10, par exemple, nous allons voir que c'est nous, lorsque nous rappelons donc ce que le Seigneur a fait lors de la scène, c'est nous qui rendons grâce. Et nous rendons grâce à Dieu et au Seigneur pour cela de nous avoir donné. Cela met, notons ici, que le Seigneur place ce qu'il institue à, sous la demande de la bénédiction divine, et il loue Dieu. Il remercie Dieu de ce que cela est institué. C'est donc quelque chose qui est, et on l'a dit bien souvent, un élément extrêmement fort, très fort, essentiel de notre vie avec le Seigneur, et en particulier ici, donc, de notre vie ensemble avec le Seigneur. C'est donc l'expression de la reconnaissance qu'il y a aussi désirée par le Seigneur et montrée par lui lorsque il rend grâce et bénit. C'est l'expression d'une consécration entière à Dieu, qu'il exprime lui, et que nous exprimons nous aussi en nous associant ensemble à l'action de grâce qui est faite lors de la scène. Je répète, une consécration entièrement à Dieu, et cela est important. Je donne, on dit au Seigneur, tu m'as donné la vie, je suis entièrement à toi. Et je rappelle, je me souviens pour toi, d'abord, et il y a d'autres applications, je me souviens de ce que tu as fait pour moi. Le troisième point que nous avons, donc, c'est qu'il rompit le pain. Alors, cette expression, rompre, nous savons bien ce qu'elle veut dire, c'est le pain est donc brisé. Il n'est pas entier lorsque il a été brisé, il ne l'est plus. Et cela nous parle, puisqu'il le dit ensuite. Cela nous parle, bien sûr, de ce que le Seigneur a accompli sur la croix. C'est pas simplement, avec peut-être que le mot est mal choisi de ma part, ce n'est pas uniquement le fait que c'est le corps du Seigneur qui est exprimé dans le pain, mais le corps offert, qui a souffert et qui est mort sur la croix. C'est l'expression de la souffrance. On vient que le sang séparé du corps est dans toute l'écriture l'expression de la mort, et cela a une signification bien sûr très forte aussi, tout à fait essentielle dans la fraction du pain. Le Seigneur a souffert dans son corps et dans son âme. Il a souffert pour nous. L'apôtre Paul le dira au il a souffert pour nous, il a souffert pour moi. Il y a ces deux côtés. Et lorsque on rompt le pain, bien sûr, lorsqu'on le mange, ensuite, eh bien, je rappelle, et je dis devant moi ce que le Seigneur a fait. Le quatrième point, c'est qu'il le donne aux disciples. Ce n'est pas les disciples qui le prennent de même, nous recevons cela, ils ont reçu cela, et nous recevons cela de la main du Seigneur. Cela est exprimé pour le pain, et dans la quatrième ligne, nous donne aussi pour la coupe. C'est la même chose. Le Seigneur nous donne le pain, le Seigneur nous donne la coupe. Et c'est ce lien très fort qui est établi entre le croyant et son Seigneur, entre les croyants et son Seigneur lors de la scène. Ce lien qui se renouvelle, on le verra aussi pourquoi, ce lien qui se renouvelle et ce lien qui fait que je prends cela de la main du Seigneur. Et lorsqu'on prend quelque chose de la main de quelqu'un, on le touche et on le regarde. Ça a des conséquences fortes dans la scène que nous comprenons. Nous sommes dans la présence spirituelle, certes, mais extrêmement vivante pour nos cœurs de ce que le Seigneur est là et de ce que le Seigneur me donne. C'est une expression pure et parfaite, et ce n'est pas la seule, on le verra aussi ensuite, de son amour et de sa grâce. Il me donne cela. Alors, s'il me le donne, est-ce que je peux refuser? C'est une question qu'il nous pose, qu'il me pose. Et on verra aussi d'autres questions incidentes de ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur veut nous toucher au plus profond des affections. Il dit donc dans le cinquième point, prenez, mangez, donc de deuxième ligne, et j'ai associé ce qu'on a dans la quatrième ligne, donc à propos de la coupe, de l'évangile. C'est une invitation. Le Seigneur invite chacun de ses rachetés à prendre le pain, à le manger, à prendre la coupe et à le boire. Je la reçois de ta part. Certes, elle est passée entre nous. Mais le sens profond spirituel, c'est que je la reçois de lui et de lui seul. Et je la reçois comme un commandement d'amour. Est-ce qu'on a le choix? Est-ce que le chrétien a le choix de dire non? Seigneur, je ne peux pas le faire. Question qui dispose à chacun de nous afin que nul ne reste en arrière à cette demande, à cette injonction que le Seigneur a fait. Il ne dit pas si vous le voulez, c'est incitatif, c'est une injonction. Prenez, mangez, buvez-en tous ceux qui sont présents là. Et nous le verrons, chaque croyant, donc, peut rompre le pain, est invité par le Seigneur à rompre le pain dans des dispositions que nous verrons en particulier dans 1 Corinthiens 11, dans ce que Paul dit. Mais cette invitation, elle est faite pour tous. Il n'y a pas que quelques-uns qui peuvent le faire et d'autres qui ne le font pas. Non, tous ceux qui sont là peuvent le faire. Le sixième point, donc, c'est ce que nous avons dans la petite note, le petit indice 6. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Alors, je ne veux pas entrer dans le débat. Il n'en est plus un sur le fait que certes une partie de la chrétienté dit que nous prenons réellement le corps, nous mangeons réellement le corps et nous buvons réellement le sang du Christ. Nous savons que ce n'est pas la pensée qui est exprimée par le Seigneur. Le sacrifice ne se renouvelle pas, l'Épître aux Hébreux est très clair sur ce point-là. Mais, en fait, ce que nous avons devant nous, c'est Christ sur la croix, qui a donné sa vie et qui a offert son sang a coulé sur la croix, c'est sa mort. C'est sa mort que nous abondants. Les deux sont mangés et bu, l'un après l'autre, le sang, séparé du corps, c'est la mort. Lors, il a un incident, mais j'en parlerai un petit peu après de la suite. Simplement, nous rappelons là aussi que nous sommes morts avec Christ. Le fait que nous participons à cela, selon l'injonction du Seigneur, eh bien, nous fait aller au fait, oui, Seigneur, si tu es mort pour moi, je suis donc mort à ce texte. Et cela, je le rappelle, c'est le texte que nous avons donc dans le chapitre 6, principalement, de l'Épître aux Romains. Un point, donc, c'est l'avant-dernier de ce passage que j'ai souligné aussi, c'est le point 7. Le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour un grand nombre en rémission de péché. Le Seigneur n'a pas, plutôt, l'évangéliste Matthieu ne nous donne pas, ne nous rappelle pas la signification du corps. Je vous rappelle qu'est-ce que signifie le sang de la coupe. Donc, lorsque le Seigneur nous l'attend, je le relis, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour un grand nombre en rémission des péchés. Alors, on a dit que une alliance, c'est pour Israël, certes. Certes, c'est pour Israël, mais est-ce qu'il n'y a pas là aussi quelque chose pour nous? La rémission des péchés, c'est bien ce que le Seigneur a fait pour chacun de nous, chacun de ceux qui étaient là, et pour chacun de nous. Et lorsque nous regardons ce qu'est une alliance, en particulier dans l'Épître aux Hébreux, je ne le développe pas, mais c'est un point qui est important pour chacun de nous. Nous avons là la pensée que lorsque Dieu a établi une alliance avec son peuple, et il en a établi plusieurs, c'est une alliance où chacun est responsable. Dieu est responsable d'agir selon ce qu'il a dit, et celui qui est dans cette alliance, l'Israélite, est responsable d'agir selon ce que Dieu demande. Et si l'un des deux, et nous savons que ce n'est pas Dieu qui peut le faire, mais si l'homme rompt cette alliance, eh bien Dieu ne peut plus honorer le contrat qu'il a passé. Et dans le chapitre 6, sans erreur de l'Épître aux Hébreux, son auteur explique que maintenant, il y a une alliance, c'est-à-dire que Dieu tient toujours ses promesses pour nous. Mais cette alliance, elle ne dépend plus des deux parties, elle ne dépend plus que maintenant de Dieu, et du Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a accompli, qui a entièrement répondu au désir de Dieu, à la perfection que Dieu cherchait dans la marche et dans la vie de l'homme, c'est lui qui l'a fait. Et cette alliance a été scellée, elle a été signée, authentifiée par le sang du Seigneur. De sorte, c'est une pensée très forte que nous avons lorsque nous prenons la coupe, c'est que nous savons que nos péchés ont été pardonnés. Nous ne le faisons pas pour qu'il le soit de manière renouvelée. Non, bien sûr que non. Et lorsque nous prenons cette coupe, nous affirmons que maintenant, eh bien, nous sommes sous la bénédiction divine, sous la grâce et sous l'amour. Et puis donc, le huitième point, le Seigneur annonce le royaume. Alors cela est en relation bien sûr avec la Pâque, où il a dit aussi qu'il ne la voirait plus jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit accompli. Et donc le Seigneur nous le rappelle ici, qu'il va partir. Et Paul nous dit bien que la scène sera jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous prendre, et dans le royaume, donc nous, il boira à nouveau le fruit de la vie. Nous passons au texte suivant, donc, dans lequel je n'ai plus souligné ce qui a été donc devant nous avant, mais ce que nous n'avons pas dans les textes qui ont précédé. Alors, je lis, et comme il mangeait, Jésus ayant pris un pain et ayant béni, le rompit et le leur donna en disant, prenez, ceci est mon corps. Puis ayant la coupe, ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle, un lien qui est versé pour un grand nombre. En vérité, je vous dis que je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Puis, ayant chanté une hymne, ils sortirent et s'en allèrent à la montagne des Oliviers. Donc ici, ce que nous avons, de plus pourrait-on dire, dans le texte de l'Évangile selon Matthieu, c'est « Ils en burent tous ». C'est une réponse claire à l'invitation du Seigneur, au désir du Seigneur. Tous ceux qui étaient là présents ont répondu à ce que le Seigneur demandait. C'est un élément, c'est un point très important pour chacun de nous, celui qui ne le fait pas. Est-ce qu'il se retrouve dans ce texte-là? C'est une question. Alors, un point que l'on ne peut pas ne pas aborder, mais qui est incident. C'est Judas a-t-il participé ou pas? Lors de la Pâque, il nous est dit que les 12 étaient là. Si nous comparons différents textes, vous l'aurez dans la note que je vous donnerai, donc des trois évangiles qui nous parlent de la scène, mais aussi de Jean, nous voyons qu'il est extrêmement difficile d'affirmer qu'il était là ou qu'il n'était pas là. Personnellement, je pense qu'il n'y était pas, parce que pour une raison qui pour moi est simple, mais qui n'est pas admise par tous, c'est le fait que le Seigneur a dit, celui qui trempe le morceau à moi, c'est celui-là qui allait le livrer. C'est celui-là qui me livrera. Cela ne peut pas, bien sûr, s'appliquer à la scène, je ne le pense pas, mais par contre, cela peut s'appliquer parfaitement à la Pâque, et on peut en conclure que entre la Pâque et la scène, Judas est sorti. Mais je le répète, on ne peut pas se servir de cette présence ou de cette absence comme un argument pour apporter des points essentiels concernant ce qu'est la scène. Le Seigneur Dieu, dans l'Écriture, n'a pas jugé bon de nous le dire positivement. Je vous ai simplement livré ma propre pensée, mais bien sûr aussi celle de bien des chrétiens qui ont regardé cela de près. Le troisième texte donc, que nous avons concernant la scène, l'institution, se trouve dans l'Évangile selon. Et quand l'heure fut venue, il se mit à table. et les douze apôtres avec lui. Et il leur dit, j'ai fortement désiré manger cette Pâque avec vous avant que je souffre. Car je vous dis que je n'en mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Ayant reçu une coupe, il rendit grâce et dit, prenez ceci et le distribuez entre vous, car je vous dis que je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Puis, ayant pris un pain, et ayant rendu grâce, il le rompit. Et le leur donna en disant, ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même la coupe aussi, après le souper, en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée. Mais voici, la main de celui qui me livre est avec moi à table, et le Fils de l'homme s'en va bien selon ce qui est déterminé, mais malheur à cet homme par qui il est livré, ils se mirent à se demander l'un à l'autre, qui donc serait celui d'entre eux qui allait faire cela. Alors vous allez me dire, alors, bien sûr, Judas, eh bien, vous voyez bien qu'il était là. Il y a une expression très forte, parce que nous avons vu dans le texte qu'il y a deux coupes. La coupe qui a été prise lors de la Pâque, et la coupe, bien sûr, qui est liée à la scène. Et il est dit ici, de même la coupe aussi après le souper. C'est bien après le souper de la Pâque. Le second point, c'est que Luc ne donne pas un ordre chronologique de ce qu'il relate, donc de ce qu'il a reçu du Seigneur pour écrire cet évangile, il le donne dans un ordre moral. Je reste sur ce point encore de Judas. Pour moi, s'il le donne ici, c'est pour que nous soyons très attentifs à la manière à ce qui occupe nos cœurs lorsque nous prenons la tête. Comme moi, c'est comme une flèche qui pénètre dans ma propre conscience et dans mon cœur. Si le Seigneur a tout donné pour moi, comment je vais prendre? Comment je vais l'apprendre? Nous verrons cela dans 1 Corinthiens 11. Et je reviens sur la Pâque, parce que ce premier texte, donc, il parle de la célébration de la Pâque qui a précédé la célébration de la scène. Lors de la Pâque, de la célébration de la Pâque, le Seigneur parle donc du royaume de Dieu et il parle donc d'une Pâque accomplie dans le royaume de Dieu. Or, il y a un texte que nous avons, bien sûr, dans 1 Corinthiens 5, où il nous est dit, je le cite, que Christ, notre Pâque, a été sacrifié. C'est pourquoi célébrons la fête des pains sans levain, donc avec du levain, dans l'état qui convient décrit dans cette Pâque. Mais je veux rappeler donc ce texte si important, Christ, notre Pâque, a été sacrifié. Cette Pâque est accomplie. Ce qui est la Pâque, c'est Christ qui nous l'a donné. Il l'a accompli. Il l'a accompli sur la croix. Et qu'est-ce que signifie la Pâque? Eh bien, elle signifie que s'il y avait le sang sur les poteaux, il servait le linteau, Exode 12, chacun connaît bien ce sang avec cela. Eh bien, ceux qui étaient dans la maison où l'ange devait passer donc, pour détruire les premiers-nés de tout le pays d'Égypte, l'ange voyait le sang qui était sur les poteaux et sur les linteaux. Et il disait là, c'est un premier-né des fils d'Israël, il est épargné. Et nous sommes introduits dans le royaume de Dieu par la conversion. Le Seigneur l'a dit à Nicodème. Il nous faut entrer dans le royaume de Dieu, et pour cela il faut être né d'eau et de l'esprit. Nous sommes spirituellement parlant, le chrétien est dans ce royaume de Dieu. Et cette Pâque a été parfaitement accomplie par le Seigneur, ce qui montre bien le sens profond spirituel de ce qu'est la Pâque, bien sûr, mais en conséquence, nous le verrons après, de ce qu'est la scène aussi. Cela est important. Pour Israël, c'est futur, et le Seigneur le dit, ce royaume est à venir, puisqu'on n'a pas voulu du Seigneur comme roi lorsqu'il est venu sur la terre. Mais il est le roi dans notre propre cœur. Et nous sommes dans son royaume, et nous sommes les sujets de son royaume. C'est tout le sens qu'il y a dans tout ce que le Seigneur dit, par exemple dans le sermon sur la montagne, et que nous devons faire notre dans notre propre vie. Mais ici, donc, le Seigneur affirme que cette Pâque sera entièrement accomplie, et elle est, si nous prenons le texte de 1 Corinthiens 5, elle est déjà pour nous actuellement. Alors il y a un deuxième point donc, qui nous est donné ici, ayant reçu une couche, ce que je disais tout à l'heure, cette coupe était liée à la célébration de la Pâque, à la manière dont cela se faisait au temps du Seigneur, et le Seigneur respecte, si nous ne trouvons pas de coupe, par exemple, dans l'institution de la Pâque, dans Exode 12, mais elle se célébrait de cette manière-là, et chacun, donc, pouvait voir à sa coupe, qui est la coupe, donc, de la Pâque. Et le Seigneur donc, exprime ici clairement qu'il ne peut plus boire du fruit de la vigne, symbole de la joie, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Mais pour nous, eh bien, nous avons cette joie de pouvoir le faire avec le Seigneur, parce qu'il est notre Pâque. Je reviens sur la scène qui suit ici, donc, dans ce texte que nous avons entre les versets 19 et 23, pour souligner deux autres points. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Et puis, un petit peu plus loin, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. Alors, nous avons vu tout à l'heure que le Seigneur nous donne. Il dit ceci est mon sang, ceci est mon corps. Mais il donne ici la signification profonde de ce que nous faisons lorsque nous mangeons le pain et nous buvons à la coupe. Nous avons devant nous le fait que c'est le Seigneur qui va s'offrir lui-même pour nous, pour moi, pour vous, pour nous, à la fois, tant dans le pain que dans le vin. Alors, ce n'est pas le pain et le vin qui sont donnés pour nous. C'est son corps et c'est son sang. Et lorsque nous participons donc à la scène du Seigneur, eh bien, nous nous approprions le fait que le Seigneur est mort pour moi. Donc cela touche, bien sûr, je l'ai rappelé tout à l'heure, mais qui est clairement exprimé ainsi, que si le Seigneur est mort pour moi, quelle est mon attitude? Est-ce que je réalise, comme l'apôtre Paul l'expliquera par exemple dans l'épître aux Romains ou dans l'épître aux Galates, que je suis mort, ressuscité à Jacques, comme le Seigneur est mort et a été ressuscité. Le quatrième point que nous avons ici, c'est en mémoire de moi. On dit souvent que la scène est un mémorial, c'est-à-dire un moment, une action, un acte que nous faisons donc en réponse à l'appel du Seigneur et nous le faisons en mémoire de lui. C'est ce qui lui est dû. C'est ce qui l'honore. C'est ce qui honore et sa personne et son œuvre. C'est un souvenir visible. Le Seigneur ne nous demande pas que nous nous cachions, que nous fassions en secret. Nous nous célébrons un cantique d'esprit, cela, et c'est en accord bien sûr avec ce que le Seigneur dit ici. Nous célébrons sa mémoire. Nous rappelons qu'il a fait cela. Parce que cela est le centre même, le fondement même de notre propre vie. Et, point, il est lié à cela, lié à l'Église d'Athènes, c'est l'exaltation de la personne du Seigneur. Alors, il n'est pas écrit ici, mais ce sera dans le genre texte, on peut faire un petit sommaire avec toutes les limites de ce que nous avons vu dans les trois et le évangiles. La scène est un repas, un souper, institué par le Seigneur et pris par ses disciples. Le signe, elle est le signe de la mort du Christ, le sang séparé du corps. Elle est mangée et bue par les croyants à la demande et en mémoire de Christ, du Christ. C'est le rappel répété et visible de la vertu divine et salutaire du sacrifice de Christ sur la croix, son corps offert, son sang versé. Alors, nous allons maintenant voir les deux autres textes qui sont les révélations que le Seigneur a fait à l'apôtre Paul. Je le lis, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des personnes intelligentes. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang de Christ ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion du corps ? Car nous qui sommes un grand nombre, nous sommes un seul pain, un seul corps. Et nous participons tous à un seul et même pain. Considérez l'Israël selon la chair. Ceux qui mangent les sacrifices dont ils partent communion avec l'autel, que disent donc, qu'est-ce qui est sacrifié à une, que ce qui est sacrifié, pardon, à une idole est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose, non. Mais ce que les nations sacrifient, elles les sacrifient à des démons et non pas à Dieu. Or, je ne veux pas que vous ayez communion avec les démons. Vous ne pouvez voir la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Provoquons-nous le Seigneur à la jalousie? Sommes-nous plus forts que lui? Donc, ce texte est tiré de 1 Corinthiens. Alors, quels sont les points ici que l'on peut souligner en rapport avec notre sujet? Le point, le premier, c'est que il est donné un petit peu dans le. Il parle du contexte dans lequel l'apôtre écrit cela. Il nous dit fuyez l'idolâtrie. Il reviendra tout à l'heure avec ce qui est sacrifié au démon et à la table, quand il parle de la table des démons. Donc c'est le caractère absolument saint de la nature de Dieu. Dieu est saint dans son essence et dans sa nature. Et donc, l'idolâtrie n'a pas lieu. Il ne faut pas non plus, c'est une des dernières conséquences que je tire personnellement, il ne faut pas non plus que ce que nous faisons, la scène, devienne aussi une idole. Mais ce n'est pas le sens qui est attribué. C'est une application que je fais pour moi-même. Il faut voir ce qui est derrière, ce que cela représente. Et nous l'avons vu, c'est bien le sens que le Seigneur donne dans les évangiles, la scène nous parle de ce qu'il a accompli, du sacrifice sur la croix, accompli pour moi, accompli pour nous, et que nous rappelons, bien sûr, lorsque nous y participons. Le second point, c'est la coupe de bénédictions que nous bénissons, mais ce n'est pas la communion du sang du Christ. On en a le fondement, il semble-t-il, de ce qu'est le principe de communion, la nature même, ce qu'est la communion. Je pense qu'on peut le dire de cette façon-là. On a souvent noté, bien sûr, que la coupe est bien sûr citée ici avant le pain, et on doit se demander pourquoi. Eh bien, l'apôtre donc, veut nous parler de ce principe. Et ce principe de communion, cette réalité de la communion chrétienne qualitative, eh bien, chaque croyant a été sauvé par le sang de Christ. Chaque croyant a reçu la vie parce que Christ a versé son sang à la croix. Nous avons d'une même part, exactement la même, chaque croyant qui sont là, réunis autour du Seigneur pour se souvenir de lui, mais cela s'applique à tous les croyants. Chaque croyant est sauvé par la grâce et par le moyen de la foi. Et donc, nous avons tous cette même part. Et donc, nous sommes tous ensemble autour du Seigneur, dans le même état, ou plutôt ayant la même vie, sur le même fondement de sa mort. C'est cela la base même de la communion. C'est pas ce que je pense de mon frère ou de ma soeur, c'est même pas ce que je pense du Seigneur. C'est ce que le Seigneur a fait pour moi. Et cela est établi, me semble-t-il, ici, d'une manière extrêmement claire. De sorte que la scène exprime cette communion, elle révèle cette communion, elle le manifeste, cette communion, et bien sûr, parce que c'est le Seigneur qui nous a fait. Mais elle est devant moi, elle est devant chacun de ceux qui participent à la scène lorsque nous sommes là donc, pour la célébrer. Le point donc, numéro 3, c'est le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion du corps de Christ. Car nous qui sommes un grand nombre, sommes un seul pain, un seul corps. L'apôtre va un peu plus loin. Il parle ici du fondement de l'unité dans la prière du Seigneur donc, que l'on a dans Jean 17. C'est plutôt l'unicité. Mais ici, c'est l'unité. Ce sont des termes et des réalités extrêmement proches. Dans Jean 17, c'est un dans le Père et dans le Fils. Ici, c'est un dans son corps, dont lui est la tête. Glorifié dans le ciel, ce n'est pas ici, mais l'enseignement de l'Épître aux Éphésiens. Donc, le pain que nous rompons n'est-il pas la communion du corps du grand Christ ? Car, ce petit cas est essentiel, nous qui sommes un grand nombre, sommes un seul pain, un seul pain. Nous rappelons ainsi ce que le Seigneur a désiré être pour son Église, qu'elle réalise que chacun des croyants réalise qu'il fait partie du corps de Christ et qu'il est une pierre vivante en le paiement qui est donné par l'apôtre Paul de ce seul corps qui n'est pas les croyants dans un lieu de donner ou dans un temps, de donner cela, bien sûr, dépasse la notion de temps, c'est le corps a été formé par le Seigneur depuis la création de l'Église, depuis qu'elle existe, donc le jour de la Pentecôte, jusqu'à ce qu'il l'enlèvera, et cette Église, avec un grand jeu, cette assemblée avec un grand temps, est en tout lieu. Les croyants, elle rassemble bien sûr toujours les croyants, mais nous, donc, nous rappelons que ce corps est un corps unique, et que le phare est le symbole visible de ce corps uni. Le point numéro 4, je l'ai scindé en plusieurs points parce qu'il me semble que c'est la même pensée, c'est le même principe. Donc, qui nous est enseigné ici, on va le relire. Considérer l'Israël selon la chair, ceux qui mangent les sacrifices ne sont pas de communion avec l'autel. Que disent donc que ce qui est sacrifié à une idole est quelque chose, ou une idole est quelque chose? Non. Mais ce que les nations sacrifient, elles le sacrifient à des démons et non pas à Dieu. Or, je ne veux pas que vous ayez communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Provoquons-nous le Seigneur à la jalousie. Sommes-nous plus forts que lui? Ainsi donc, l'apôtre nous parle d'une conséquence pratique. Ceux qui avaient été sauvés se réunissaient pour célébrer la scène, pour y participer, pour manger le pain, boire la coupe. Pouvaient-ils avoir aussi en parallèle une autre activité? Nous n'oublions pas que lorsque nous prenons la scène, nous exprimons une consécration entière à Dieu. Pouvait-il avoir une autre consécration, si l'on peut exprimer ainsi? Non. C'était une autre consécration, pardon. Non, c'était impossible. Et c'est qui est de l'apôtre au temps où il est écrit, donc au temps où les idoles. Il y avait des sacrifices d'idoles, donc, dans les temples grecs, dans les temples romains. Donc, mets le point là, sur quelque chose qui est tout à fait. Si vous avez été séparé, vous vous êtes, comme il veut le dire aux Thessaloniciens, vous vous êtes tourné des idoles vers Dieu pour célébrer le Dieu vivant. C'est vrai? Eh bien, est-ce que cette pensée, si nous avons cette pensée de l'unique consécration, de l'unique adoration, de l'unique dévotion, pourrait-on dire, dans nos cœurs, lorsque nous participons à la scène et tout au long de notre propre vie? Alors, l'apôtre donc rappelle, donc, au tout début, en haut donc, de ce passage que nous avons ici projeté sur le mur, quelque chose qui concernait qui. Voilà. Il y a donc plusieurs passages, donc pour ceux qui veulent les noter, ils les auront dans le texte ici. Exode 29, verset 33, Lévitique 8, verset 31, et Lévitique 21, verset 6 à 22, où il est parlé du fait que le sacrificateur pouvait manger le sacrifice. Et c'était le sacrifice de consécration. Il pouvait le faire pour être entièrement consacré dans le sacerdoce, dans la sacrificature, dans le sacerdoce pour Dieu, donc, et servant à la fois Dieu et le peuple. Donc il devait offrir un sacrifice de consécration, c'était ça, bénir, et il pouvait manger le sacrifice qui avait été offert. Et il y a une expression très, très forte dans Lévitique 29, il nous a dit que ce sacrifice, quand il était de manger, était le pain de Dieu. C'est le pain de Dieu. Alors, cela, bien sûr, pour les Juifs qui étaient convertis, avait une signification extrêmement forte. C'était un lien très fort qui était établi entre ceux qui étaient sacrifiés et là où c'était sacrifié sur l'autel, dont parle d'un autre Paul ici, et celui qui célébrait ce sacrifice. Donc il y avait un lien très fort entre le sacrifice et le sacrificateur. Il y a un lien très fort, c'est pour ça que l'apôtre Paul prend cet exemple pour nous le démontrer, entre le sacrifice du Seigneur et nous-mêmes. Nous sommes liés entièrement à Christ. Et cette communion profonde que nous avons, donc, nous en avons vu que c'est un peu chose, avec le Christ parce qu'il est mort pour chacun de nous, prouve que cette communion profonde trouve un objet d'oration lorsque nous sommes réunis autour du Seigneur, nous louons et nous célébrons le fait que maintenant nous sommes entièrement à lui, entièrement consacrés à lui. Il y a une sorte d'identification entre le sacrifice et le sacrificateur. Je n'en viens pas sur nous sommes morts à cet objectif. On le voit plusieurs fois en filigrane, certes, mais pense que c'est quelque chose qui est tout à fait essentiel. Et l'apôtre rappelle que l'un n'ont pas communion avec l'autel. Que disons que celui qui est sacrifié à l'idole est quelque chose? Non. Et on le sait bien, l'idole n'existe pas. Alors pourquoi est-ce qu'on lui offre quelque chose? Et c'est à cela que nous devons faire aussi attention dans nos propres vies. Car quoi? Quel est l'objet de notre préoccupation? L'objet de notre pensée? De quoi sommes-nous occupés? Pour répondre, non. La pensée ici est très claire. Ce n'est pas, il dit, l'idole n'est rien. Et en ce sens, le sacrifice qui lui est offert, ça n'est rien, ce n'est pas quelque chose. Mais ce qui est important, c'est à qui est-ce qu'on offre. Parce que nous sommes liés à cela. Nous sommes liés à celui à qui est-ce que l'on offre. C'est l'exemple que, qui est pris donc à partir du sacrifice de consécration dans l'Ancien Testament. Et donc il poursuit, non, mais ce que les nations sacrifient, elles les sacrifient à des démons et non pas à Dieu. Nous ne sommes plus dans ce domaine des démons, nous en avons été libérés, nous sommes esclaves, nous sommes libres pour servir Dieu. Or, je ne veux pas que vous ayez communion avec les démons. Alors, c'est un principe général. Nous notons le bien, il est question de démons ici. Il n'est pas question de chrétiens, faisons bien attention à ce qui est dit dans ce texte-là. Parce qu'on a des fois. J'ai peut-être pu le faire aussi, dans, à utiliser ce texte-là pour la communion, partagée, je ne parle pas spécifiquement de la scène, avec d'autres chrétiens. Ce texte ne nous parle pas de cela, il nous parle d'un principe qui est tout à fait essentiel dans ma propre vie, c'est que ma propre vie, mon propre témoignage, ce que je sers doit être en accord entier avec ce que le Seigneur a fait pour moi parce que je lui suis entièrement consacré. Donc vous pouvez voir la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Ici donc, Seigneur, par la plume de Paul, donc réaffirme ce qu'il a dit dans tout ce qui est mon sens, la coupe du Seigneur. C'est pas quelque chose qui est à son audace, ce n'est pas une simple coupe ou un simple verre. Ce que je veux dire, donc, est quant à la signification, hein, c'est pas quant à l'objet, mais c'est la coupe du Seigneur, elle ne nous appartient pas. Et vous ne pouvez, et la coupe des démons, vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Lorsque nous prenons la scène, comme au premier jour, les disciples étaient autour d'une table, invités par le Seigneur, il faut que je mange cette Pâque avec vous. C'est une invitation qu'il lui a donnée en fait, et il a invité ses disciples ensuite à participer à la scène. C'est donc la table où le Seigneur nous invite pour prendre la scène qu'il nous tend, qu'il nous donne, et c'est sa table. C'est bien sûr pas quelque chose que nous pouvons nous approprier. Il y a des conséquences que l'on peut tirer de cela. Mais ici, donc, c'est un principe clair qui est affirmé, donc, que l'on peut résumer par un principe de consécration entier au Seigneur. Donc, c'est un acte de communion qu'il nous demande, et cet acte de communion lui est adressé exclusivement. Il y a une conséquence pour nous, c'est que lorsqu'il y a un désaccord dans un rassemblement, pouvons-nous, devant le Seigneur, pouvons-nous lui dire non, je ne peux pas rompre le pain, je ne suis pas en accord avec mes propres frères et mes propres frères. Certes, c'est quelque chose qu'il faut juger des deux côtés, on le verra dans le texte suivant. Mais il ne faut pas que vous disiez vis-à-vis de cela que la scène est pour le Seigneur. Elle est exclusivement pour lui. Un sommaire de ce que nous avons là, la scène exprime le fondement de la communion. Chaque participant a été lavé de ses péchés par le sang de Christ versé à la croix. La communion entre le Seigneur et ses rachetés, et donc ce second point, donc un seul corps. Troisièmement, l'identification du croyant à son sauveur lorsqu'il est mort avec lui. Quatrièmement, la sainteté de notre salut et la séparation avec le monde dont Satan est le prince. Nous prenons la scène invitée à cette âme. Alors le texte ici est un peu plus long, mais je le lis. Quand donc vous vous réunissez ensemble, ce n'est pas la scène dominicale que vous prenez, car au moment de manger, chacun commence par prendre son propre repas, et là, enfin, tandis que l'autre s'en mise. N'avez-vous donc pas des maisons pour manger et pour boire? Ou méprisez-vous l'assemblée de Dieu? Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dire? Vous l'aurez. En cela, je ne vous loue pas. Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce qu'aussi je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit: ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Même, il la coupe aussi après le souper en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci toutes les fois que vous la boirez en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez le pain et que vous buvez la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ainsi, quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable à l'égard du corps et du sang du Seigneur. Mais que chacun s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe. Car celui qui mange et qui boit, mange et boit un jugement contre lui-même, ne distinguant pas le corps. C'est pour cela que plusieurs sont faibles et malades parmi vous, et qu'un assez grand nombre dorment. Mais si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne soyons pas jugés, donc, parce que je n'ai pas fait une bonne copie. Ce qui veut dire ici, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous discipline afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, quand vous réunissez pour manger, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour être jugé. Quant aux autres points, je les réglerai lorsque je viendrai. Premier point, donc. Donc, en remarque liminaire, c'est le fait que c'est lorsque dans la première partie de ce texte que nous avons lu, le premier paragraphe de ce texte qui nous parle de ce qui n'allait pas, de ce que le Seigneur, de ce que Paul, le Seigneur, donc, reproche, que le regard du Seigneur avait été détourné, dévoyé, et qu'il était devenu un repas commun, et il semble bien un repas très abondant, qui posait des problèmes d'ailleurs à tous ces participants, parce qu'il y en avait qui étaient pauvres, qui n'avaient pas un niveau social aussi, et qui étaient là, et ça a créé un désordre profond, et on peut le dire, je crois, un défaut de communion. Et le plus essentiel, un défaut de respect profond pour ce que le Seigneur avait établi. Donc, ici, l'apôtre souligne très clairement scène dominicale, c'est-à-dire scène consacrée au Seigneur, scène repas qui lui est destiné, repas qui est pour lui. Cela, il ne faut aussi jamais l'oublier dans nos propres cœurs, c'est pour lui que nous rompons le pain et que nous buvons à la vie. Le second point que nous avons ici, donc se trouve un peu en bas, lorsque Paul rappelle ce que le Seigneur a dit, et on voit ici une fois de plus entre les trois évangiles et les deux passages que nous avons dans les Corinthiens, cette complémentarité merveilleuse qui nous fait cerner ce privilège infini que nous avons de pouvoir nous approcher, invités par le Seigneur pour participer à la scène. Et c'est fait ceci en mémoire, c'est fait ceci toutes les fois que vous l'aurez en vivant de proche, car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous vivez de la mort, vous annoncez la mort du Seigneur le jour qui vient. C'est toutes les fois. C'est quelque chose qui est répétitif. C'est un rappel dans le temps. Et le Seigneur se sert de cela, me semble-t-il, pour chaque fois nous donner des affections nouvelles pour lui, pour chaque fois que nous en voulions un petit peu plus dans la connaissance de son amour, de son don et de sa grâce. C'est merveilleux que le Seigneur nous ait donné cela. Nous avons cette possibilité de le faire semaine après semaine, nous le verrons après, donc, mais chaque fois que nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et le deuxième point, donc il y a dans le point 3 que nous avons ici, c'est jusqu'à ce qu'il vienne. Nous avons cette pensée du retour du Seigneur lorsque nous prenons que nous sommes de votre passage invités à sa table et nous pouvons ainsi nous souvenir de lui en sachant qu'il va venir nous prendre pour nous enlever avec lui dans le ciel. Cela est aussi dans nos cœurs. Et on a dit que la pensée du retour de Christ est la pensée la plus stimulante qu'on puisse avoir pour une vie de consécration pour le Seigneur. Souvenons-nous ce que le Seigneur dit à propos, lorsqu'il nous parle dans la parabole des vierges, de quelle manière ces vierges attendaient l'époux. Eh bien, c'est la même chose que pour nous, cela, donc, dans nos affections profondes pour le Seigneur, cela nous amène toujours à réfléchir et à revenir à lui, parce qu'il va venir nous prendre. Ensuite donc, il y a dans tout ce qui suit, dans quel état ? Comment est-ce que je me contente ? M'approche. Et cela est essentiel et se pose à chacun de nous. Et le Seigneur nous donne, bien sûr, sa pensée à cet égard. On peut prendre la scène du Seigneur, on peut. Il est possible de dire que on puisse la prendre indignement. L'apôtre va expliquer ce que cela veut dire, ce que cela suppose. Il semble bien que prendre la tête du Seigneur indignement, c'est le faire, en ne s'en rendant pas compte, malheureusement, il y a des péchés, que nous avons pu pécher, et que ces péchés n'ont pas été jugés. Hein, c'est bien ce qu'il dit. En conséquence du point 4, ces péchés n'ont pas été jugés, alors que le sang de Christ a coulé sur la croix pour effacer mes péchés. Mais nous le savons bien, il y a tout ce travail journalier, et auquel le Seigneur nous invite particulièrement pour la scène de nous juger nous-mêmes, le point 5, de s'éprouver soi-même, de se placer devant Dieu, et s'il y a quelque chose qui n'a pas été et que nous savons, et dans lequel nous n'avons pas pris, je veux dire, la précaution ou le temps, où nous n'avons pas pris conscience qu'il était important de le juger devant Dieu, et en particulier ce qui peut concerner, nous avons pu blesser un frère, nous avons pu avoir. Une action qui montre que nous n'étions pas entièrement dévoués pour le Seigneur, et il y a peut-être été aussi un sujet de chute pour ceux qui pour ceux qui nous ont vus, ou une action que personne ne connaît, personne n'a vu, sauf bien sûr celui qui voit toutes choses. Le Seigneur, eh bien cela, nous sommes appelés à le juger. C'est ce que le Seigneur donc rappelle, bien sûr, à rappeler à ses disciples quelques instants avant de prendre la scène lorsqu'il a voulu laver les pieds de ses disciples. Nous avons le corps lavé. C'est ce que le Seigneur a accompli pour nous, nous sommes sauvés. Mais nous avons besoin de nous laver les pieds. Dire que, bien que les pieds, à cette époque-là, n'étaient pas aussi bien protégés que ce que nous avons actuellement, donc c'était la partie du corps qui se salissait le plus. Et donc il fallait que cela soit lavé. Et nous tombons bien dans ce passage de Jean 13, le Seigneur. Le Seigneur, nous sommes appelés à le faire les uns. Pour les autres, nous aider en cela. Le côté qui n'est pas abordé ici, il est dit soi-même. Et nos frères et sœurs doivent être utiles, bien sûr, pour que nous nous rendions compte de ce qui doit être jugé dans nos propres vies. Alors, ce n'est pas pour que nous nous en abstenions. La parole est très claire. Et qu'ainsi, ils mangent du pain et boivent de la coupe. Parce que si nous nous jugions, et que nous ne prenions pas la scène. C'est un peu comme si nous disions ton sacrifice n'est pas suffisant pour pardonner mes péchés. 1 Jean 1, à la fin, donc, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nos iniquités si nous les confessons. Et la valeur du sang de Christ, c'est honorer Christ, c'est glorifier Christ, c'est magnifier la valeur de son sang que de s'éprouver soi-même et de se juger sur la partie, si nous ne le faisons pas, eh bien, Seigneur, nous dit c'est un jugement contre vous-même que vous prenez. Vous participez à la coupe, vous mangez le pain, vous célébrez la valeur du sang de Christ et vous ne vous l'appliquez pas. C'est un jugement. On se juge soi-même. Dans notre sens, bien sûr, on se condamne de vrai dire plutôt qu'en solution. On se condamne soi-même par cette participation. Mais cela ne veut pas dire, et je le répète, que nous avons, entre guillemets, le choix. Non, nous n'avons pas le choix. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Nous sommes amenés à participer à cette fête, dans le jugement de nous-mêmes. Pas que c'est un côté, en tout cas, je parle pour moi, qu'on a peut-être plus tendance à titre personnel à oublier. On s'approche parce que tout à l'heure, je dis que ça faisait 39 ans et je dois dire qu'il y a des fois où je me suis approché et je n'ai pas pensé. C'était une espèce de routine et ce n'est pas bon. Ce n'est pas une bonne chose. Dans bien des milieux chrétiens, où il y a des points, bien sûr, on ne peut pas accepter. Hein. Mais avant de prendre la scène, il est toujours fait état de dans quel état suis-je, dans quel état ceux qui vont la prendre le font. Je crois que c'est quelque chose, non pas que ça devienne une institution, mais que, en particulier dans les prières de la scène, soit rappelée de telle manière à ce qu'il y ait ce jugement qui peut être très rapide, et qui peut être un petit peu plus long. C'est pas là que le problème, l'exercice, c'est de le faire, parce qu'à ce moment-là, je ne traîne pas le corps de qui ? Le corps du Seigneur. Qui est mort sur la croix, je ne le vois plus sur la croix, mourant pour moi, pour mes péchés. Je suis en contradiction avec ce qu'il a fait.
S'il me plaît, en tant que grand-père, c'est juste une décision que je voulais avoir. J'habite avec les militaires, enfin, je dirais le quartier populaire de Bordeaux, où il y a beaucoup de malheureux. Là, je pense à un passage où le Seigneur dit celui qui a dit un malheureux, mais il souffre le pain qui est au bord de la route, à qui il n'a pas donné le pain. C'est comme si à lui, ça soit le Seigneur, on lui a rien donné. Et je me dis, parce que des fois, quand je viens à l'église, je rencontre tout le monde de même, c'est parce que je n'ai pas de moyens dans la poche. Je passe comme ça. C'est pas de l'indifférence. J'ai l'habitude de le voir, je viens quand même. Comment m'éprouver avant de prendre la scène? C'est ça mon problème. Ça me travaille en ce moment.
Eh bien, j'ai pas de la réponse toute faite, c'est ce que je veux dire. Mais je crois que c'est simplement le fait de le dire au Seigneur. Comme le psalmiste pourrait dire, sors de moi, et sauve mon cœur, et révèle-moi s'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que le péché doit être caractérisé, ce n'est pas quelque chose de vague, de faute. Il faut que je sois capable de caractériser ce péché. Il y a des péchés que je ne connais pas, que je n'ai pas encore, dont je ne me suis pas rendu compte. Et pourtant, je prends, ici, il me semble, que c'est quelque chose qui est connu, mais que je n'ai pas vu. Donc, si c'est pas un peu, parce que qui d'entre nous n'a pas été sollicité en permanence par quelqu'un qui est très pauvre, qui n'a aucun argent, qui lui demande si c'est quelque chose. Faut-il faire? Faut-il pas faire? Ce n'est pas. Il y en a qui sont vraiment dans le besoin, mais il y en a aussi qui le font pour un commerce qui ont le sait très bien. Et c'est cet exercice que je leur mets aussi. Eh bien, il faut toujours se placer dans la lumière du Seigneur, devant leur Seigneur, pour qu'il fasse la lumière dans le cœur. Mais tant que cette lumière n'a pas été faite quelque part, c'est tout l'exercice qu'il y a entre une conscience qui est en permanence exercée et qui peut devenir maladie, c'est un extrême. Mais ici, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit, je pense, les frères ne pensent pas, qui le disent, ils pensent de quelque chose qui est connu par moi, un péché, et que je n'ai pas.
che c'era tutti monaci, che si muove di me Gesù, mon écrivain de partage, c'était bien dit dans la parole, le Seigneur le dit lui-même, hein, et Paul le rappelle, hein, il y a des actes qui sont terminés d'une façon directe, hein, dans la mort. Donc je pense que la marque du jugement sur cette base de partage est bonne aussi.
Non mais je ne l'aime pas, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que je veux dire...
Mais il ne faut pas mélanger le partage du pain, effectivement.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que on a tous des exercices de conscience qui ne sont pas forcément résolus quand on prend le pain. Il faut demander au Seigneur qu'il nous fasse la lumière en nous vis-à-vis de ces exercices-là. Et je ne pense pas... Il s'agit de cela dans ce que nous avons dit. Voilà, donc le dernier point, donc c'est un point très sérieux, qui parle de ce que le Seigneur peut faire, car c'est pour cela que plusieurs sont faibles et malades parmi vous et qu'un assez grand nombre dorment. Le Seigneur agit en conséquence. On ne peut pas parler là du gouvernement de Dieu, parce que cette notion, cette réalité du gouvernement, ça s'adresse à tous les hommes. Mais il peut y avoir, il y a des choses qui ont été retirées parce qu'elles ont menti, vous avez menti à Isaac, tout ça, c'est pour Elias et pour Sakira, mais il y en a aussi qui dorment. L'apôtre Jean, je crois, peut parler du péché qui est à la mort. C'est l'appréciation du Seigneur. Mais nous avons là un avertissement très sérieux à ce que nous soyons toujours enclins à ce jugement de nous-mêmes. Donc, un petit sommaire sur cette dernière partie de ce qui concerne la scène. La scène ne peut être dédiée de son but. Elle doit toujours rester le repas pris sur la terre, préparé et donné par le Seigneur en attendant qu'il vienne. Deuxièmement, elle est la manifestation suprême de l'amour du Seigneur qui est mort pour nous donner la vie éternelle. Troisièmement, elle exprime la perfection du sacrifice de Christ en ce que nous avons l'assurance que nos péchés jugés, confessés et abandonnés sont pardonnés. C'est dans cet état que nous apprenons. Elle manifeste la souveraineté du Christ, Christ a aimé l'assemblée, se livrer lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifie en la purifiant par le lavage d'eau, par la parole, afin qu'il se présente l'assemblée à lui-même glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien semblable, mais afin qu'elle soit sainte et irréprochable. Alors, deux exemples. Brièvement, dans Acte 2, au tout début de l'Église, donc il persévérait dans la doctrine et la communion des apôtres, dans la fraction du pain et des prières, simplement pour montrer l'importance qu'avait la scène à ce moment-là. C'est la deuxième chose qui nous est dit de la première expression de la réunion ensemble. Fait que les croyants soient ensemble, ils étaient tous dans un même lieu, ils persévéraient dans la doctrine des apôtres et dans la communion, dans la fraction du pain, pardon, et les prières. Le deuxième point, c'est acte 20, donc c'est à trois. Lorsque l'apôtre, revenant de la Macédoine vers la vie est arrivée dans le corps de l'Antoine, et la première chose qu'il a fait, avec ceux qu'il avait visité quelques mois, plusieurs mois auparavant, c'est de se retrouver avec eux le premier jour de la semaine. Donc on voit là, on note là, que c'est le premier jour de la semaine, et c'est, me semble-t-il, le seul exemple que nous avons dans le livre des actes de la fraction du pain après les premiers instants de l'Église. Donc, lorsque nous étions comme nous étions assemblés pour rompre le pain, Paul devait partir sans s'entretenir à l'évêque. Donc le but de cette réunion, c'était la fraction du pain. Et ensuite, bien sûr, ils se sont entretenus très tard dans le soir, mais ils avaient ce désir profond de se souvenir du Seigneur. Alors, maintenant, quelques textes, et je m'arrête là, il y en a deux ou trois, donc, qui sont nécessaires aussi pour voir comment est-ce que nous pouvons réaliser et partager cet accueil, cette fraction de pour la fraction du pain dans le rassemblement. Le premier texte qui est souvent cité, c'est le texte de Romains 15. Alors, il ne parle pas spécifiquement, bien sûr, de la scène, mais si on le lit, par le Dieu de patience et de consolation vous donne d'avoir en vous un même sentiment selon le Christ, Jésus, afin que d'un commun accord, d'une même bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi recevez-vous les uns les autres, comme aussi le Christ vous a reçu à la gloire de Dieu. Il s'agit de la vie chrétienne aussi, et de nous recevoir, d'accepter, de manifester cette communion chrétienne, donc entre nous, indépendamment, ce n'est pas une question de rassemblement local, c'est un principe, donc c'est ce que Dieu nous demande les uns pour les autres. La première chose, c'est un même sentiment selon le Christ Jésus. Et nous savons bien que nous avons besoin de tout le secours de Dieu, et c'est l'exercice que nous avons à avoir. Nous ne devons pas nous contenter d'avoir des sentiments différents selon le Christ. Il me semble là que le niveau et l'application que nous pouvons faire de cela est tout à fait essentiel. Cela concerne Christ. Christ et son œuvre. Cela ne peut pas forcément s'appliquer à des situations particulières. Nous sommes appelés et nous devons prier, et l'apôtre le fait donc pour les Romains, pour que nous ayons un même sentiment selon le Christ Jésus dans la pensée que nous sommes soumis ensemble au Christ. Le deuxième point, c'est comment cette unité peut être, ou cette communion peut être manifestée pratiquement. Eh bien, lorsque nous sommes ensemble, par exemple pour le culte, il est question de louange ici, eh bien nous fassions d'un commun accord et d'une même bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le but de toute action en commun, c'est bien de glorifier Dieu. Dieu est Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vis-à-vis d'une action particulière, c'est le troisième point, c'est comment nous recevons nous les uns les autres en tant que chrétiens. L'apôtre s'adresse à des chrétiens ici. Comme le Christ vous a reçu à la gloire de Dieu. Et que la même façon que Christ nous a reçu, nous a donné la vie, il me semble qu'on peut en faire. Personnellement, je le fais, une invocation vis-à-vis de l'état d'esprit, la spiritualité avec laquelle nous devons nous comporter vis-à-vis de nos frères et sœurs, quels qu'ils soient, pour la gloire de Dieu, ou à la gloire de Dieu. Deuxième point, et on y reviendra, c'est la notion d'autorité et de responsabilité dans un rassemblement. C'est quelque chose sur lequel nous avons beaucoup à progresser, à moi, qui est tout à fait essentiel à la vie de l'Assemblée. Il y a plusieurs passages ici, j'en cite 4, mais on en a d'autres, en particulier il y a ce titre de qui nous parle. Cette autorité dans l'Assemblée et de ce que sont les anciens dans le rassemblement. Les anciens veillent. Ils ont cette responsabilité de veiller. La manière dont ils le font, ou plutôt dont ils doivent, de faire bien sûr expliciter dans, dans différents passages. Mais c'est nécessaire à l'avis de l'Assemblée et à la réalité d'une, d'une communion heureuse dans l'Assemblée. Et celui qui est appelé, ceux qui sont appelés à ça, il parlait du corps des anciens ou survivants, il parlait de ceux qui sont à la tête, les mêmes, donc ils conduisent, c'est le passage de Romains 12, ils conduisent soigneusement. Il faut faire beaucoup de choses, mais c'est pas le temps de faire. Nous conduisons bien. Donc, ce qui est dit dans l'Épître aux Hébreux à propos des inconducteurs. Alors, on a souvent, vis-à-vis des inconducteurs, on pense souvent à ceux qui ne sont plus là. Mais il y a actuellement, et Dieu n'a pas changé de pensée, il y a des conducteurs dans les rassemblements, il y a des anciens dans les rassemblements, et il faut reconnaître cela selon ce qui nous est dit dans les livres. Et donc, cet avertissement, lorsque l'apôtre Paul est passé à Milet pour les anciens de Éphèse, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au milieu duquel l'Esprit Saint vous a établi surveillant pour faire l'assemblée de Dieu qu'il a acquise par le sang de son propre fils. On dit souvent, il faut que l'Esprit agisse, c'est ça qui s'appelle juste dans le rassemblement. Nous sommes prêts à nous soumettre à ceux qui ont ces caractères spirituels, sommes-nous prêts à accepter de nous soumettre les uns aux autres dans la crainte de Christ. Ici, il est écrit que c'est l'Esprit Saint qui les a établis. C'est pas nous-mêmes, mais c'est l'Esprit Saint qui les démontre comme tel dans les rassemblements. Vous savez bien, c'est une question qui est longuement expliquée dans la première épître à Timothée et dans l'épître à Tite et bien sûr dans l'épître à Timothée. Un autre point, et pour être une synthèse de la prochaine fois, donc, c'est comment est-ce que les chrétiens qui allaient d'une assemblée à l'autre, comment pouvaient-ils être connus comme tels? Eh bien, il y a plusieurs passages, mais c'est surtout reproduit celui que l'on a dans Romains 16, qui est une lettre de recommandation dans la force au poids, je viens parler dans 2 Corinthiens 23 et dans 2 Corinthiens 10. Mais ici, pour ça, je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est servante de l'Assemblée, qui est attachée, afin que vous la receviez dans le Seigneur, comme il convient à des saints, et que vous l'assistiez dans toute affaire pour laquelle elle aurait besoin de vous, car elle-même aussi a été en aide à plusieurs et à moi-même. Donc, on voit bien dans les autres passages qu'on ne peut pas se recommander soi-même, il y a des conséquences vis-à-vis de chrétiens. Donc, si j'arrive dans un lieu où on rompt le pain, que je désire rompre le pain que je ne suis pas, je ne peux pas me recommander moi-même. Donc, il y avait cette institution de la lettre de recommandation. Ici, c'est écrit par un frère, mais lorsque nous allons dans un autre rassemblement, il est important, et ce que je souligne ici, de faire connaître que nous soyons, que notre service, que ce que nous sommes, que notre engagement dans le rassemblement où nous nous trouvons, puisse être témoigné par ceux avec lesquels nous nous trouvons, pour ceux qui de nous connaissent pas. C'est un exemple, donc, de ce que nous trouvons dans l'Écriture. Autre chose aussi, c'est le mauvais état moral. Je ne m'étendrai pas sur ce sujet, non pas qu'il n'est pas important, mais je crois qu'il est clair pour tout le monde. Celui qui n'est pas dans un état moral, il y a plusieurs caractéristiques qui nous sont données dans ce passage de 1 Corinthiens 5, eh bien, nous ne pouvons pas avoir de relation, de ne pas avoir de relation avec les fornicateurs, a fortiori, bien sûr, c'est ça.